Sie sind bestimmt an Bord. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour la présentation des résultats annuels de BASAC 2020. Pour mémoire, nous avons mis les participants à cette conférence Zoom sur muet, et donc vous pourrez réactiver vos téléphones si vous le souhaitez. Je ne sais même pas quelle est la manipulation, mais Arthur le trouvera. Et le plus simple, il nous semble, serait de nous envoyer un email si jamais vous avez des questions pendant l'intervention. Nos adresses respectives sont à marle@bassac.fr ou mm, mes initiales, donc mm@bassac.fr. On sera fort de consulter vos questions pour y répondre pendant la présentation ou à l'issue de celle-ci. C'est toi qui changes les pages. La présentation d'ailleurs a été mise en ligne ce matin sur notre site internet. Vous la trouverez dans la partie financière, information financière de BASAC.fr. Et évidemment, on vous invite à la consulter. Ceux qui étaient aussi destinataires d'un email ont dû la recevoir en pièce jointe. Page 2 sur l'ordre du jour de cette réunion. Donc, je présenterai une introduction rapide sur notre histoire, notre démarche en matière de RSE et puis les indicateurs principaux évidemment de la société pour l'année 2020. Nous présenterons aussi les principales performances de BASAC dans chacune des filiales et puis Arthur nous dira un mot sur les performances financières détaillées de la société. À gauche de cette page, vous voyez une photo de l'abbaye de BASAC qui est l'origine de notre dénomination sociale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, il s'agit d'une abbaye où ont passé leur enfance nos grands-parents paternels, et donc le père du fondateur de notre société. Donc on s'est dit que c'était un clin d'œil amusant à la fois à notre histoire, à notre ancrage territorial et français, et puis évidemment à la longévité de cette abbaye qui date du XIe siècle. Le mot d'introduction donc sur les principales activités de notre société. Donc vous voyez sur la partie gauche les activités qui sont en intégration globale, donc qui sont pour la plupart contrôlées à 99 ou à 100%, entre 94 et 100%. Et puis sur la droite, c'est des activités qui sont contrôlées en termes de droit économique de façon un petit peu inférieure à 100%, et par ailleurs en termes de droit juridique, qui sont considérées en contrôle conjoint avec des coactionnaires et donc mises en équivalence dans nos comptes et non pas en intégration globale. Un zoom sur nos principales activités par géographie et puis évidemment par secteur d'activité. Donc, comme vous le savez tous, notre histoire et notre activité essentielle relèvent de la promotion immobilière, que nous exerçons en France, en Allemagne et en Espagne, avec l'Espagne qui, cette année, est passée assez nettement devant l'Allemagne avec un plan de livraison très important qui a permis d'atteindre un chiffre d'affaires, comme vous le voyez, élevé. Les points communs de ces activités, que ce soit les trois activités de promotion ou l'activité industrielle de garage en Allemagne, sont des rendements sur capitaux employés tout à fait satisfaisants et des secteurs dont l'activité est pérenne et qui ne semble pas facilement disruptable, à défaut d'un meilleur mot. On essaiera pendant cette présentation de trouver un mot en français, mais en tout cas pour l'instant, on pense à celui-là. On est très sensible au fait d'avoir des secteurs qui ne sont pas concernés par des changements drastiques de parts de marché, de produits, de technologies, et dans lesquels on peut investir nos efforts et notre temps pour les décennies à venir. ZAP, vous pouvez le considérer un peu comme une activité qui est… on a une…
Non, ça va.
C'est bien, ça va, ouais.
Excusez-moi, juste un petit
participant.
Allô,
si je veux vous mettre en mute.
Est-ce que tous les participants peuvent veiller à être en mute de façon à ce que, si jamais nous nous sommes trompés dans la mise en place de la technique qui nous permettrait tout le monde, de basculer tout le monde en mute, néanmoins, on ne soit pas gêné par les interventions. Donc, ZAPF peut paraître une activité un peu atypique. Vous savez qu'elle est le résultat d'une acquisition en 2006 d'une société de promotion dont finalement on a gardé pour l'essentiel l'activité industrielle, mais qui est tout à fait performante aujourd'hui. Notre passé récent et moins récent. On a décidé de vous présenter des histogrammes avec un assez long historique de notre performance, pour voir aussi de façon très concrète la transformation de la société au fil des années et même des décennies. Alors évidemment, l'évolution de chiffre d'affaires et du résultat, c'est le produit d'un réinvestissement de la totalité, puis de la grande majorité de nos bénéfices chaque année. Réinvestissement dans des conditions satisfaisantes et qui permettent cette évolution assez forte que vous voyez à l'écran. Donc là, on voit le résultat opérationnel en bleu, le chiffre d'affaires en jaune, avec ce qu'on espère pas être un plateau éternel, mais néanmoins un niveau de résultat opérationnel depuis quelques années qui est très élevé et tout à fait satisfaisant compte tenu de notre activité et des capitaux qui sont au travail. Page suivante, ça c'est une façon de voir les chiffres légèrement différente. On a un peu innové avec Arthur, puisqu'il s'agissait à la fois de montrer l'évolution des fonds propres comptables de la société au fil des années, donc à travers deux décennies, évidemment avec l'impact de l'augmentation de capital de 2006, puisqu'à l'époque, Olivier Mitterrand n'avait pas cédé d'action, il avait procédé simplement à une augmentation de capital pour l'introduction en bourse. Donc là, il y a eu 80 millions d'euros de capital additionnel qui a été injecté dans la société. Mais en dehors de cette période, il n'y a pas eu d'augmentation de capital significative. Et donc, l'évolution des fonds propres et de la valeur totale créée qu'on approche par en rajoutant les dividendes cumulés est simplement due au réinvestissement régulier et assez performant des profits au cours de ces deux décennies. Donc, encore une fois, on a rajouté les dividendes cumulés puisque la valeur totale créée par la société, c'est évidemment l'accumulation de l'avoir des actionnaires, de ses fonds propres comptables, et puis des dividendes distribués pendant la période. Et donc, on voit qu'à partir d'une base de capital de 36 millions d'euros en 2000, additionnée de 80 millions d'euros d'augmentation de capital en 2006, on a constitué un peu plus de 800 millions d'euros de capital total entre les dividendes et les fonds propres en 2020. On voit une transformation radicale du profil financier de la société, d'une société de taille moyenne en 2000 à une solide ETI aujourd'hui. Pour l'anecdote, le résultat net de la société en 2020, qu'on peut se permettre d'arrondir à 100 millions d'euros puisque Arthur n'est pas parvenu à passer les 100, il s'est arrêté à 99,9. Nous place en 79e position des sociétés cotées en France. Donc, il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais néanmoins, c'est pour se donner une idée de ce que constitue aujourd'hui la rentabilité et le bilan très conservateur de la société. Alors, ce qu'on voit aussi de cette page, j'y passe une seconde de plus, c'est qu'évidemment, cette transformation au cours des deux dernières décennies, elle a été possible pour l'essentiel en réinvestissant nos capitaux et nos profits dans notre activité française et dans l'activité allemande et espagnole. Il sera difficile d'avoir d'abord la même trajectoire dans les deux décennies qui viennent, si on se projetait à 2040, qui correspond bien à notre horizon. Donc d'abord, la même trajectoire sera de toute façon difficile à faire, mais de façon certaine, cette trajectoire, elle ne pourra pas se faire exactement dans les mêmes activités. Pour une raison toute simple, c'est que par exemple, si on prend l'activité française, le financement traditionnel d'une opération de promotion est de 10% du coût de revient TTC en fonds propres. Et on voit assez facilement que, vu les sommes dont on parle ici, elles ne pourront pas être réinvesties dans le futur seulement dans des projets français à hauteur de 10% du coût de revient TTC. Alors évidemment, on pourrait solliciter ce qu'on fait déjà aujourd'hui, beaucoup moins de recours à la dette bancaire, puisqu'aujourd'hui, la dette bancaire est quasiment nulle, Arthur y reviendra. Mais néanmoins, même avec ça, on voit que l'évolution des fonds propres a été à peu près une multiplication par 10 au fil des deux décennies. Donc, les 35 millions d'épargne, 36 plus 80 ou par 8 versus le total des dividendes et des fonds propres actuels. Et cette performance-là, elle ne pourra pas être réitérée dans notre métier où la totalité du marché représente peut-être 2,5 milliards ou 3 milliards de fonds propres au maximum. Et je parle de 100% du marché. Alors, le présent, puisqu'on a parlé un peu du passé, nos deux dernières décennies, donc les indicateurs de cette année, qui sont tout à fait satisfaisants encore une année de plus, malgré l'épidémie qui a touché notre secteur et notre économie en 2020, avec un chiffre d'affaires qui est en légère augmentation, de l'ordre de 4% de mémoire, une marge opérationnelle courante qu'on peut qualifier d'à peu près stable, en légère décroissance, et un résultat net, comme je l'ai dit, qui malheureusement ne passe pas la barre des 9 chiffres, puisque on s'est arrêté à 99,9. Le fait saillant de cette page, c'est la baisse assez forte de l'endettement net. Vous voyez une baisse faciale de 87 millions d'euros. Il faut évidemment tenir compte des 40 millions d'euros de dividendes qui ont été distribués pendant la période. Et donc, la véritable génération de trésorerie est de 87 plus 40 ans. Donc, 127 millions d'euros est donc un petit peu supérieur au résultat net après impôt de la société, ce qui correspond en fait à une décroissance du besoin en fonds de roulement en fonction des cycles de développement des différentes activités. Donc, une génération de trésorerie de 127 millions d'euros pendant la période, 40 millions de dividendes et 87 millions d'euros de baisse de l'endettement. Un carnet de commandes qui donne une visibilité d'environ 16 mois et un portefeuille foncier qui donne une visibilité d'environ 5 ans. Ça, c'est un portefeuille foncier juste pour la partie en intégration globale, donc contrôlé à 100%. On pourrait, et on le fera un peu plus tard dans la présentation.
Je vais te couper parce que là, j'ai des mains de réunion. Allez, bisous.
Si tout le monde peut se mettre sur mute, je crois qu'il y a eu une intervention qui n'était pas souhaitée. Là, on se limite aux 20 000 logements qui correspondent aux sociétés qui sont en intégration globale, donc les nouveaux constructeurs Concept Bao et Premier en Espagne. On pourrait valablement y ajouter Marignan, puisque pour nous, Marignan, en plus d'être une société, c'est aussi un portefeuille de foncier à développer dans le futur. Alors, ça ne passe plus. Ouais. Le portefeuille foncier, d'ailleurs, ça, on pourrait dire que là, je suis passé au présent, on passe à l'avenir, au futur. Donc, on a montré l'évolution de ce portefeuille au fil des années, qui s'est beaucoup renforcé, qui est plus difficile évidemment à faire croître quand il devient beaucoup plus significatif. C'est malheureusement la taille et la principale encre des processus de croissance. Toutes les institutions qui sont de l'autre côté de cette conférence et qui sont de grande taille peuvent parfaitement comprendre. Il est plus difficile de continuer à faire croître un portefeuille foncier qui représente une bonne partie de l'activité totale du marché français de promotion. Alors, on l'a fait de façon importante en faisant l'acquisition de Marignan, qui avait un portefeuille foncier convenable, à fin d'année 2018. On a représenté Marignan en grisé, néanmoins, intellectuellement, pour nous, c'est du potentiel d'activité exactement de la même manière que l'activité qui est en intégration globale des nouveaux constructeurs de l'Espagne et d'Allemagne. Ce portefeuille foncier représente environ 6 à 7 années d'activité, en fonction de notre capacité à le réaliser en chiffre d'affaires. Et heureusement qu'on a un portefeuille foncier qu'on trouve relativement étoffé, parce que l'un des faits saillants aussi de l'année 2020, j'aurais pu en parler en introduction, c'est les difficultés qu'on a rencontrées en termes de montage d'opérations, d'obtention de nos autorisations administratives, que ce soit par la très forte perturbation qu'a créé le Covid dans le fonctionnement des mairies locales, et par ailleurs dans le grand conservatisme de certains élus qui ne souhaitent pas toujours voir appliquer les règles d'urbanisme qu'ils ont signées quelques années auparavant. Et donc, on a des difficultés de montage qui marquent toute la profession et qui font qu'on est bien heureux de disposer d'un portefeuille foncier étendu, ne serait-ce que pour stabiliser notre activité, qui sans cela serait sans doute plutôt en décroissance. Ce qui n'est pas un problème majeur entre nous dans notre secteur d'activité, puisque quand vous êtes en décroissance, ceux qui nous connaissent depuis toujours, vous générez de la trésorerie puisque notre bilan est uniquement constitué d'actifs courants, de BFR, qui se contractent lorsque l'activité se réduit. Alors, comment est-ce qu'on est parvenu à cette performance historique et à cette performance 2020? On a mis une petite page de valeur et culture d'entreprise. C'est vraiment ce qui nous semble être l'explication principale de ces bons chiffres. C'est une activité, l'activité de promotion qui est 90% de notre chiffre d'affaires. C'est une activité qui n'a pas vraiment de barrière à l'entrée. On peut très bien s'instituer promoteur du jour au lendemain. C'est d'autant plus facile aujourd'hui qu'il est possible d'avoir accès du capital par des plateformes de crowdfunding. C'est une activité où il n'y a pas d'impact très, très significatif des marques. Vous pouvez être en concurrence avec un promoteur tout nouveau. Si ces produits sont bien conçus et pas trop chers, ils se vendront très bien. Et c'est une activité dans laquelle il n'y a pas d'avantage compétitif en dehors, à nouveau, d'une culture d'entreprise très, très saine et forte. Donc, on a retenu 4 valeurs cardinales. On espère en avoir quelques-unes autres. Et Arthur a eu l'idée de les mettre comme piliers d'un capitole logoté. Donc, l'honnêteté, l'exigence, la frugalité, l'agilité. Je vous laisserai lire la page au calme. Il n'y aura pas grand-chose à ajouter comparé aux sous-titres qu'on a inscrits. Les engagements RSE, ESG, je ne sais jamais quel acronyme utiliser de la société. C'est de bon ton maintenant d'inclure ce type de partie dans les présentations officielles. On a l'impression de faire du RSE depuis 1972, la fondation de la société il y a 49 ans, en étant des bons citoyens, des bons partenaires, des gens transparents, honnêtes, qui se comportent convenablement, qui dépolluent quand ils ont besoin de le faire. Qui se comportent correctement avec leurs collaborateurs actuels, leurs collaborateurs anciens, et les différents partenaires avec lesquels ils interagissent, et qui évidemment se conforment aux 8000 normes qui s'appliquent à l'acte de construire en France. Donc là aussi, le législateur, il ne découvre pas totalement le RSE, puisque notre activité est très, très normalisée, très encadrée, de façon à ce qu'elle ait peu d'impact sur son environnement. Néanmoins, on a pris un exemple ici avec notre programme du Paris 13e, qu'on appelle Brunzo, où l'autorité locale a souhaité aller encore bien au-delà de la législation applicable, et où on a, que ce soit une performance environnementale, un mode constructif, un mode de collaboration avec les riverains, aussi une conception des chantiers, un plan d'organisation des chantiers, qui seront tous bien au-delà des habitudes, entre guillemets, des habitudes, des normes ou des lois qui s'appliquent. Et ça se fait dans un cadre qui est de partenariat avec la ville de Paris, et puis évidemment dans un contexte global où la ville de Paris a imposé ce cadre, cette structure, et l'a négocié aussi avec les intervenants dès l'origine du projet. Ce qui rend le projet, par ailleurs, équilibré économiquement, ce qui est indispensable pour la prospérité à long terme des acteurs. Le grand événement des années à venir, en tout cas de l'année 2021, c'est évidemment le passage à la réglementation énergie 2020, qui sera plutôt mise en œuvre à partir de tout début 2022, sans doute. Notre société, depuis 49 ans, a vécu de très, très nombreuses évolutions normatives et de performance énergétique des bâtiments. Donc, on accueillera cela comme les précédentes, avec enthousiasme pour relever le défi et voir comment construire des immeubles magnifiques tout en étant respectueux des nouvelles normes. Et on n'est pas plus inquiet que ça, puisque, encore une fois, c'est un processus auquel on a fait face au cours des 5 dernières décennies de façon régulière. Nos engagements, c'est aussi plein de collaborations de façon très productive avec des associations locales ou internationales. En haut à gauche, vous avez notre fondation d'entreprise qui a fait l'objet d'une implication personnelle. Au-delà, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de l'investissement financier, qui est finalement commun à beaucoup de sociétés, ces fondations, elles sont aussi le résultat d'une implication personnelle de certains collaborateurs ou associés de la société, et qui leur crée une couleur particulière. Par exemple, notre fondation au Niger, qui reçoit 300 300 étudiants dans un internat à la fois à Niamey et à Zinder. Elle a été fondée à l'origine par Olivier Mitterrand, qui s'est déplacé un nombre de fois incalculable au Niger. Et ma sœur Marie, je crois, y part demain matin dans un pays où les conditions de sécurité ne sont pas toujours optimales pour s'assurer du bon fonctionnement de nos internats et de nos écoles. Donc, ce n'est pas seulement de faire des chèques, c'est aussi une implication personnelle et un vrai investissement. De la même façon, l'association qui est à la droite de Yara, le Neurogroupe, a été fondée par mon épouse Mélodie. Et Mélodie est tous les jours dans une école dans le 11e qu'elle a créée pour les enfants avec des troubles de développement du cerveau, donc neuroatypiques. Valdeco, c'est une association qui reçoit des jeunes réfugiés en France et avec lesquels on collabore, notamment dans certaines des banlieues où on est présent. Enfin, la partie gouvernance, le G de ESG. Donc, le conseil d'administration, là, on s'est limité au conseil d'administration de BASAC. C'est un conseil qu'on veut équilibré, expérimenté et attaché à la société. C'est un conseil qui est restreint en termes de nombre de collaborateurs ou de membres, mais avec des gens qui tous pourraient parfaitement vivre sans participer à ce conseil et qui sont présents parce qu'ils sont fondamentalement préoccupés du sort à très long terme de la société. Ils connaissent intimement la société. Deux d'entre eux, donc 40%, sont indépendants. Et ils ont à nouveau des sensibilités très différentes. Marie, donc, qui est à la tête de la fondation et qui a des sensibilités, une sensibilité vraiment différente, par exemple, de la mienne. Geneviève Martin, qui est un ancien commissaire aux comptes, une ancienne commissaire aux comptes, avocat pendant 30 ans, qui est aujourd'hui encore très, très active dans ses différentes missions et qui a une sensibilité évidemment très différente d'un entrepreneur comme Olivier Mitterrand, qui va avoir une audace et une volonté de faire peut-être un peu différente de profils plus conservateurs, et Saïd Pogam, qui apporte une vision financière, une modernité, et aussi une grande prudence, comme c'est le cas souvent des associés de fonds d'investissement. On va faire un zoom sur certains de nos marchés. Là, je vais passer la parole pour la première page à Arthur, qui a établi une page de pédagogie utile pour les nouveaux participants.
Donc, nous avons voulu ici vous présenter le modèle d'affaires de la société LNC des nouveaux constructeurs en France, et en particulier l'articulation des trois grands agrégats dont nous vous présentons l'évolution à chaque publication de résultats. Tout cela mis en regard du cycle de vie d'une opération de promotion immobilière que vous voyez sous la frise en bas de la page. Ces trois grands agrégats sont donc le portefeuille foncier, le carnet de commandes et le chiffre d'affaires, en particulier son dégagement. On commence donc sur la gauche de la page par notre portefeuille foncier, qui est alimenté en fait par l'ensemble des promesses de vente, qui sont en quelque sorte des options d'achat que signe le développeur. Il représente donc la matière première de notre activité et est donc composé d'opérations ou de logements à des stades d'avancement très divers. Demande de permis de construire déposé, non déposé, permis de construire obtenu, purgé et encore offre à la vente. Ce portefeuille foncier va ensuite se transformer en carnet de commandes que vous voyez donc là au milieu de la page à partir du lancement de la commercialisation d'un programme et au fur et à mesure des réservations faites par les clients. Comme vous le savez, nous devons atteindre au moins 35% de pré-commercialisation afin d'obtenir de nos partenaires bancaires une garantie financière d'achèvement qui est nécessaire à la signature d'actes de VFA, de vente en l'état futur d'achèvement. Ce carnet de commandes que vous voyez donc au centre de la page a donc deux composantes. D'abord, ce chiffre d'affaires réservé, mais non encore signé devant notaire, qui représente environ un tiers du carnet de commandes, et une deuxième composante qui représente donc deux tiers de ce carnet de commandes, et qui est le chiffre d'affaires signé devant notaire, cette fois-ci donc parfaitement sécurisé, mais non encore reconnu du fait de l'avancement partiel des opérations. Ce qui est très important de comprendre à ce stade, c'est que cette optionnalité que nous confère en France ces promesses de vente nous protège en très grande partie du risque technique. D'ailleurs, il nous protège complètement du risque technique et administratif pour ce qui est de l'obtention et de la purge des autorisations administratives, et nous protège en grande partie du risque commercial, puisque, comme vous le voyez sur la page au milieu de celle-ci, quand nous commençons nos travaux, nous avons généralement une pré-commercialisation d'environ 50% sur l'opération concernée. Et jusqu'à à l'obtention de cette GFA, justement, nous avons toujours la faculté de ne pas exercer ces options d'achat dont je vous parlais plus tôt. Vous voyez enfin sur la droite de la page la reconnaissance progressive du chiffre d'affaires de notre activité de promotion immobilière en France, avec notamment trois grands paliers qu'on a voulu vous présenter, l'achèvement des fondations, le stade hors d'eau et enfin le stade livraison. Pour en voir des chiffres et des présentations plus concrètes sur l'activité française, toujours des nouveaux constructeurs, nous vous avons ici présenté les principaux indicateurs d'activité qui concernent la société en 2020. Vous voyez donc que le nombre de signatures sur 2020 a très légèrement baissé, passant de 3443 en 2019 à 3428 en 2020, avec une proportion de vente en bloc que vous voyez relativement stable entre les deux exercices, la société ayant décidé au premier semestre et au premier confinement de ne pas en faire un usage massif afin de préserver autant que possible ses marges et son offre à la vente. Son offre à la vente, du coup, que vous voyez au milieu de la page, qui passe de 2450 lots à fin 2019 à 2120 lots à fin 2020. Et cette offre à la vente a baissé du fait du moindre nombre de lancements commerciaux sur l'année 2020 à cause des retards liés au Covid, dont vous parliez tout à l'heure, Moïse, mais aussi de façon plus générale, de l'allongement des délais d'obtention des autorisations administratives. Et notre portefeuille foncier que vous voyez tout à droite de la page, qui représente plus de 19 000 lots, devrait, on espère, nous permettre de reconstituer cette offre à la vente. Nous vous avons aussi présenté, et c'est une façon de répondre à des questions qui nous ont été adressées en avance, le stock dur d'LNC à fin 2020, qui représente donc 52 lots en France, ce qui est une proportion d'à peu près 2% de son offre à la vente, que nous jugeons tout à fait faible et non significatif, avec une proportion du stock dur supérieur à un an qui a très considérablement réduit. Et je repasse la parole à Moïse pour aborder le Marignan.
À nouveau, j'invite tous les participants à poser leurs questions par email et on ouvrira les micros tout à l'heure. Puisque Arthur et moi parlons relativement vite, et donc on ne laisse pas forcément des respirations pour ceux qui voudraient poser des questions, et on est tout à fait conscient du fait que c'est beaucoup d'informations en une petite heure de présentation. Donc n'hésitez pas à intervenir, c'est toujours plus sympathique, même si évidemment ce sera encore mieux quand on se retrouvera physiquement et que vous pourrez prendre la parole de façon plus informelle. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on a investi dans Marignan en 2018 ? La promotion est un métier, vous l'avez compris, qu'on aime bien pour beaucoup de raisons différentes. D'abord parce qu'on a l'impression de savoir le faire et ensuite parce que les rendements du capital sont tout à fait convenables sur longue période. Et enfin parce que c'est un métier qu'on ne voit pas disparaître à courte échéance et on aime bien ne pas avoir de trop mauvaises surprises rapidement. La deuxième chose, c'est que c'était une société de grande taille nationale et que ça nous permettait d'avoir une société à côté de notre activité historique, les nouveaux constructeurs, bien indépendante, avec une gouvernance indépendante, avec une activité parfaitement concurrente avec les nouveaux constructeurs. Il n'y a pas de comité de coordination, il n'y a pas d'arbitrage de ma part entre les deux intervenants s'ils se retrouvent en concurrence sur un terrain. Ces deux sociétés qui travaillent l'une à côté de l'autre, de façon concurrente, comme ça existe dans beaucoup de segments d'activité et avec des identités propres. Donc, on a fait l'acquisition avec un partenaire financier de façon à garder un bilan très, très conservateur au niveau de la société cotée, dont on présente les résultats aujourd'hui, à Aermont, un fonds immobilier remarquable. Et ce qu'il faut noter depuis, c'est qu'on a dû faire face au même vent contraire, je dirais, que chez les nouveaux constructeurs, qui ont un peu contracté la marge des nouveaux constructeurs. Pour la même raison, la marge de Marignan, elle, n'a pas baissé, mais néanmoins, elle a moins augmenté que ce qu'on aurait pu imaginer, puisque la marge de notre profession est plutôt autour de 7-8% ou 8-9%, et qu'on n'est pas encore à ces niveaux de marge habituels. Néanmoins, ce que vous ne voyez pas sur cette page et qui est très saillant au cours des deux dernières années, et j'ai vu certains de nos partenaires banquiers se connecter au début de la réunion, c'est que la dette de la société a radicalement baissé depuis l'acquisition en 2018, avec une baisse de l'ordre de 85%, qui n'existe évidemment que dans notre secteur et qui est liée à nouveau, il faut aimer la comptabilité au fait que les promoteurs n'ont que des actifs courants, que du BFR à leur bilan. Et donc, quand leur activité se réduit un peu ou quand ils deviennent un peu plus disciplinés dans la gestion de leur capital employé, eh bien, ils génèrent beaucoup, beaucoup de trésorerie. Donc là, il a juste fallu devenir un peu plus discipliné que n'avait été la société historiquement sur la gestion de son BFR. Et la dette s'est réduite de façon drastique. Sachant que cette dette, pour l'anecdote, mais aujourd'hui elle est plus significative, elle était sans recours sur les actionnaires. Donc elle était cantonnée à la société marine. Néanmoins, bien évidemment, on n'est pas dans le métier de décevoir nos partenaires bancaires. Donc même si elle était juridiquement cantonnée, notre objectif était bien de l'honorer. Un mot sur notre activité en Espagne. Donc, d'abord, pour ceux qui nous connaissent moins bien, on est exclusivement présent à Madrid et à Barcelone. On n'est pas présent sur la côte et on n'est pas présent dans d'autres communes, dans d'autres agglomérations espagnoles. Sachant que, par exemple, en 2008, on avait une activité à Valence et on avait quelques terrains, pas vraiment côtiers, mais qu'on pouvait qualifier d'un tout petit peu plus entre la résidence principale et la résidence secondaire. Notre activité à Madrid et à Barcelone aujourd'hui, mais que de la résidence principale. C'est une équipe remarquable, premier en Espagne. Ils sont courageux, optimistes. Ils ont fait face à des périodes vraiment très difficiles. Aujourd'hui, on est dans un moment de marché normal, je qualifierais normal. C'est une équipe aussi qui porte fort une culture particulière, puisque je crois qu'en 2020, à nouveau, ils n'ont pas eu de démission de l'année. Donc, sur une cinquantaine de personnes, ça prouve bien que les gens, à la fois, ont des super résultats et en même temps, n'ont pas de velléité de partir. La marge est en forte baisse cette année, mais je continue de les qualifier de super résultats parce que malheureusement, là, on s'est pris un vent contraire très fort et puis ça reste une belle marge, 15%. On s'est pris un vent contraire très fort qui était l'évolution très, très rapide des coûts de travaux en 2017, 2018. En fait, il y a eu une très forte baisse des coûts de travaux après la grande crise financière et immobilière de 2007, 2008, 2009. Avec des coûts de travaux qui avaient baissé à des niveaux où en fait c'était des sociétés en redressement judiciaire ou en sauvegarde qui nous faisaient des prix pour continuer à vivre. Et cette situation, malheureusement, n'a pas perduré. Et donc, il y a eu une normalisation très rapide en 2017, en 2018. Et ça, c'est une façon aussi d'illustrer le fait que le modèle d'affaires en Espagne ou en Allemagne est un peu moins favorable parce que là, vous êtes propriétaire des fonciers. Et donc, quand vous avez des vents contraires très forts, comme une augmentation des coûts techniques, eh bien, vous ne pouvez plus rediscuter des conditions d'acquisition des fonciers ou abandonner les opérations, puisque par définition, vous en êtes propriétaire. Donc, ça veut dire qu'il faut partir de niveaux de marge qui sont encore plus élevés et de niveaux de marge d'engagement qui sont très, très généreux. Ce qu'on fait, je vous rassure. On est néanmoins dans une période de marché, je vous l'ai dit, un petit peu entre deux. On vend très bien, bizarrement. Malgré le Covid, malgré les velléités d'indépendance de la Catalogne, même quand il y avait des manifs à Barcelone, on continuait à vendre complètement nos appartements. Pas énormément d'offres, notamment comparé à la très grande période 2005-2006. Et en revanche, les prix des terrains ont pas mal augmenté, sans qu'il n'y ait non plus de folie, puisqu'il n'y a pas de financement foncier en Espagne, quasiment pas. Et donc, comme les banques prêtent assez peu aux opérateurs, ben, ça crée une barrière à l'entrée et du conservatisme général dans le marché. Donc, on continue à acheter des terrains à des conditions qui nous paraissent tout à fait communes. Concept BAO, donc notre activité qui est exclusivement à Munich. Donc là, les ventes, vous l'avez vu, ont évolué de façon assez sensible, les réservations. Mais ça, elles sont très dépendantes d'un ou deux lancements dans l'année. C'est une activité qui est très concentrée sur quelques très grands programmes. Et donc, selon que votre lancement est intervenu en octobre ou en février, vos ventes de l'année vont être assez différentes. Donc, notre activité, fondamentalement, notre potentiel d'activité future, il n'a pas changé de façon radicale. On a beaucoup de réservoirs d'activité. Les dossiers mettent du temps à sortir à Munich. Les temps de montage sont très élevés, similaires ou supérieurs, je dirais supérieurs à la France. Mais en revanche, sans incertitude sur le fait d'obtenir les droits à bâtir en définitive. Là où en France, vous avez une incertitude qui est presque totale, puisque même quand les droits à bâtir sont réglementaires, vous pouvez très bien ne jamais les obtenir. En Allemagne, Vous êtes sûr de les obtenir, mais ça peut prendre un temps très élevé. Donc, c'est ce qui explique aussi cette volatilité de l'activité. Un taux de marge qui reflète à la fois un modèle d'affaires, encore une fois, où il faut être plus exigeant parce qu'on achète les terrains plus tôt. Donc, on a plus de capital au travail et on prend un peu plus de risques puisqu'on ne peut pas renégocier les terrains si jamais on a des surprises mauvaises. Un carnet de commandes et un portefeuille d'activité, un portefeuille foncier, pardon, qui donne une très forte visibilité future. Et enfin, un mot sur la jolie surprise de 2020, qui est notre activité de garage préfabriqué en Allemagne. Donc, ZAP, pour ceux qui nous connaissent moins bien, c'est 5 usines un peu partout, je dirais, dans la partie sud de l'Allemagne. On ne couvre pas bien le nord de l'Allemagne. C'est 16 000 garages par an environ, et c'est une activité de B2B et de B2C, désolé d'utiliser un acronyme anglais, c'est-à-dire qu'on vend à la fois des aménageurs et des lotisseurs qui sont des professionnels, et puis on vend à des particuliers qui veulent un garage en béton dans leur jardin pour protéger leur voiture. Donc c'est à peu près 60-40 ou 50-50 sur les années, entre ces deux canaux de distribution. Et là, la société a eu une performance remarquable en 2020. Alors, cet adjectif va vous paraître surprenant, puisque c'est la marge la plus faible de notre portefeuille, mais ce n'est pas la même chose de faire ces marges-là dans une activité industrielle. Et là, on parle d'une marge opérationnelle, hein, donc après dépréciation et amortissement, on ne parle pas d'une marge d'un excédent brut d'exploitation, on parle vraiment d'une marge opérationnelle avant impôt. Donc, c'est un niveau de performance qui est vraiment très bon, qui ne sera d'ailleurs pas facile à maintenir et qui reflète bien les efforts de Emmanuel Thomas et de Jörg Günther, c'est les homonymes qui me jouent des tours, pour trouver des solutions toujours et essayer d'améliorer toujours la prospérité à long terme de la société en travaillant avec les équipes. Donc là, c'est un exemple aussi du fait qu'on a bien fait de ne pas toujours écouter les conseils avisés qu'on reçoit, puisqu'on a beaucoup de gens qui nous avaient très fortement conseillé de vendre cette activité, de trouver un autre partenaire, de nous diluer au capital pour la déconsolider ou que sais-je. On a pris notre temps, on a fait ce qu'il fallait pour atteindre une performance qui nous paraissait bonne. Ça a pris du temps, mais au fil des années, on est arrivé à un rendement du capital et du chiffre d'affaires qui sont très solides. Je vais maintenant passer la parole devant cette très très belle photo de Chessy, notre programme de Chessy, de Ceris, pardon. Chessy, c'est un immobilier entreprise, à Arthur pour la partie financière détaillée de nos résultats de 2020.
Et je commence directement par les chiffres clés de l'année 2020 et particulièrement les principaux agrégats de notre compte de résultats de Bassac. Je passe rapidement sur le chiffre d'affaires que vous voyez augmenter de 4% entre 2019 et 2020, parce qu'il fera l'objet d'une page spécifique juste après. Le taux de marge brute est en légère baisse, donc de 0,5%, notamment sous l'effet de la baisse de la marge brute en Espagne, que Moïse a déjà commenté, qui est le fait d'une forte hausse des hauts de construction sur ces dernières années. Pardon. Le résultat opérationnel courant est stable lui aussi et n'appelle pas plus de commentaires que ceux qui valent pour l'évolution de la marge brute. Et enfin, le résultat net part du groupe s'établit à 99,9 millions d'euros, juste en dessous des 100 millions d'euros, en évolution depuis 2019 où il était de 88 millions d'euros, ce que vous voyez sur la droite.
On dirait un prix de vêtements chez Kiabi, mais c'est aussi une illustration, je trouve, je rebondis une seconde sur le 99,9, c'est une illustration du fait qu'on souhaite avoir une politique comptable conservatrice, et si c'est 100 000 euros, nos commissaires aux comptes et notre direction financière considéraient qu'il n'y avait pas de raison de reprendre une provision ou d'avoir un traitement comptable différencié sur tel ou tel point comptable, ben on n'a pas joué avec les chiffres et on a publié le résultat tel qu'il est apparu, entre guillemets. Et ça, c'est un point très important. On souhaite avoir la politique comptable la plus conservatrice de notre secteur. Et puis, par ailleurs, encore une fois, ne pas transformer les images pour atteindre tel ou tel point d'ancrage, sachant que 100, c'est parce qu'on compte en base 10, mais je suis sûr que 99,9, en notre base, ce serait un résultat tout rond aussi. Tu peux peut-être dire un mot avant sur le retraitement 2019.
Oui, je vais le faire juste sur la page suivante. Simplement, là, je vais m'arrêter une seconde sur cette page et vous parler d'un élément qui n'est pas présenté dans cette page. Et je réponds en direct à une question qui nous a été posée sur la contribution des sociétés mises en équivalence. Donc, en particulier Quirk et Bayard, qui est Bayard Holding, qui est la holding d'acquisition de Marine. Les quotes-parts des résultats des entreprises associées représentent en 2020 une perte de 5,2 millions d'euros contre moins 14 millions d'euros de pertes en 2019. En 2020, la décomposition de ce montant est très différente de celle de 2019, puisque vous avez comme principal élément une perte de la société de coworking Quirk pour 6,4 millions d'euros, car vous imaginez bien que son activité a été à 100% impactée malheureusement par les différentes mesures de confinement en France cette année. Et cette société opère actuellement 4 centres à Paris, bientôt 5. Ensuite, deuxième facteur important, c'est la forte progression de la contribution de Bayard Holding, donc la ligne d'acquisition de Marignan, dont la contribution dans la cote-part de Bassac est de moins 2 millions d'euros. Alors, comment se décompose ce moins 2 millions d'euros? Parce qu'il y a un enchaînement à bien comprendre. La première chose, c'est que le résultat annuel de Marignan est de plus 14,6 millions d'euros cette année, en très légère baisse par rapport aux 15,4 millions de 2019, dont il faut en réalité déduire le passage en charge progressif de l'écart d'acquisition, qui avait été constaté au moment de l'acquisition de la société en 2018 et qui avait été affecté donc au stock, pour un montant total à l'époque de 53 millions d'euros. Cette affectation de l'écart d'acquisition au stock a été passé en charge pour un montant de 35 millions d'euros en 2019 et pour un montant de 15 millions d'euros en 2020. Il nous restera donc un solde de 3 millions d'euros à constater sur l'exercice 2021. Et après, cet écart d'acquisition a été complètement apuré. Ensuite, il y a aussi un second retraitement pour un montant de 9,8 millions d'euros qui correspond au coût de financement de la holding d'acquisition par ses associés, en montant donc de 9,8 millions d'euros. Voilà, donc contribution de Bayard qui s'améliore significativement, passant de moins 11 en 2019 à moins 2 en 2020. Je poursuis donc par cette page sur notre chiffre d'affaires qui croît donc de 4% en 2020, passant de 945 millions d'euros à 986 millions d'euros, grâce notamment à la contribution de la France et de l'Espagne. Alors, je m'arrête une seconde sur le retraitement que nous avons opéré. Nous appliquons désormais à l'activité allemande de promotion immobilière les normes IFRS 15 qui visent la reconnaissance du chiffre d'affaires à l'avancement désormais pour les opérations allemandes de promotion immobilière et dans la suite logique de cette application, l'application de la norme IAS 23 qui vise en l'occurrence la comptabilisation des frais financiers qui ne sont désormais plus stockés et incorporés au coût de revient, mais passés en charge sur l'exercice dans lequel ils sont payés. Donc, en France, où notre chiffre d'affaires, en l'occurrence, est reconnu donc, à l'avancement, c'est-à-dire en multipliant le chiffre d'affaires signé devant notaire par un coefficient d'avancement technique, le chiffre d'affaires augmente de 3%. Comme je vous l'ai présenté déjà dans une slide précédente, le nombre de signatures a été finalement relativement stable sur l'exercice par rapport à 2019 grâce à un très fort rattrapage au second semestre. Et l'avancement technique, qui est la deuxième composante de ce calcul, lui aussi a connu un très fort rattrapage au second semestre, notamment au mois d'août, et nous permet d'afficher en France un chiffre d'affaires en légère croissance de 3%. En Espagne ensuite, le chiffre d'affaires qui est cette fois-ci reconnu à l'achèvement, le calendrier de livraison a été fourni en 2021, était très fourni en 2021, notamment en début du premier semestre, avant le premier confinement, pendant lequel les chantiers espagnols ont été fermés pendant 15 jours. Et c'est précisément cette faible durée de fermeture des chantiers qui nous a permis de constater peu de retard sur l'avancement des opérations en Espagne en 2020. Je reviens très rapidement sur la performance de Xav que Moïse a déjà commenté, qui est donc en croissance significative de 9% sur l'exercice, et une croissance rentable, donc, puisque la marge s'améliore elle aussi et passe de 6,5% à 11,5%. Donc, chez Xap, l'impact de la crise sanitaire sur nos ventes a été relativement contenu. Je passe ensuite à la présentation du bilan économique simplifié de la société. Alors, deux éléments, à mon avis, majeurs à souligner. Le premier, c'est donc la baisse très importante de l'endettement net qui passe en bas à droite des deux graphiques qui vous sont présentés, qui passe donc de 89 millions d'euros à fin 2019 à 2 millions d'euros à fin 2020. Je précise que ces deux chiffres intègrent les dettes de loyer, donc les dettes qu'on appelle IFRS 16, pour un montant un peu inférieur à 10 millions d'euros. C'est donc le premier fait saillant à commenter sur cette slide. Le second serait concerne les actifs non courants. Et on précise ici, car ça n'apparaît pas, que nos capitaux propres ne financent pas d'incorporel à l'actif de la société, parce que nos immobilisations incorporelles sur 2019 et 2020 sont un peu inférieures à 1 million d'euros. Voilà, ça vient de précisément ce que décrivait Moïse tout à l'heure, notre politique comptable très prudente. Et donc, nous sommes à l'aise avec ces 183 millions d'euros d'actifs non courants qui n'intègrent qu'un million d'euros d'immobilisation incorporelle.
Sachant qu'en transparence, ces actifs non courants, en fait, c'est pour l'essentiel le BFR de Marignan. Il y a toute une partie qui est couverte par le BFR de Marignan, ça n'est qu'une partie, parce qu'il y a aussi il y avait un peu des cartes d'acquisition qui étaient essentiellement amorties au cours des deux dernières années dans Marignan. Et puis, vous avez aussi les actifs de commerce, les pieds d'immeubles de commerce qu'on conserve en patrimoine, qui représentent quelques dizaines de millions d'euros, qui sont, eux, pas courants. On peut vraiment les qualifier de non courants, mais néanmoins, si jamais on donnait la mission à la personne qui s'en occupe chez nous, Stanislas Goupil, de vendre un portefeuille de commerce, je pense que ce serait peut-être 5-6 mois maximum de processus.
Je poursuis donc par la situation de trésorerie, de dette nette par pays, qui vous est présentée ici en millions d'euros. Donc vous voyez que la situation de trésorerie nette des nouveaux constructeurs est assez stable entre 2019 et 2020. Alors, là encore, c'est dû, je reprends les explications qui vous ont déjà été apportées, mais c'est dû à deux choses. D'abord, le maintien du rythme de signature qui a été très, très bien rattrapé sur le second semestre 2020 et qui nous a permis d'encaisser convenablement. Et deuxième paramètre, un peu moins favorable cette fois-ci, l'allongement des délais d'obtention des autorisations administratives qui a décalé un certain nombre d'acquisitions l'année 2020 et donc qui nous a permis d'avoir cette très forte amélioration sur l'ensemble du groupe de la situation de trésorerie nette. Vous voyez ici deux petits éléments à commenter. Le fait que la dette aujourd'hui est contenue pour l'essentiel à nos activités espagnoles et allemandes de promotion immobilière qui ont des modèles financiers un tout petit peu différents et mobilisent sensiblement plus de capitaux que l'activité française de promotion immobilière. Et vous voyez sur la gauche, pour la première fois, apparaître la trésorerie qui appartient à Bassac et qui est notamment le fait des remontées de dividendes des sociétés que vous voyez sur la droite de la page. Toujours sur l'endettement et sur la structure financière, vous voyez donc notre niveau d'endettement brut a diminué sur l'exercice 2020, que le montant de la trésorerie, pour les effets que je vous ai exposés juste avant, a augmenté, ce qui nous donne une amélioration très significative de 87 millions d'euros de la situation de dette nette de la société, situation d'endettement net de la société. Dans le même temps, vous voyez que les capitaux propres consolidés sont passés de 510 millions à 574 millions sur l'exercice. Donc, nous avons maintenant un endettement net sur capitaux propres consolidés qui est de 0% et un endettement net sur EBITDA, disons, qui est nul. Et l'Assemblée générale du 12 mai, comme je vous l'ai mis tout en bas de la page, notamment sur ces éléments-là, proposera un paiement d'un dividende de 2,5 euros par action.
Sachant que pour ceux qui sont moins familiers des standards du secteur, usuellement, les grands promoteurs nationaux ont des limites en termes d'endettement net rapporté à leurs agrégats qui sont de 1 pour 1 pour les fonds propres consolidés, sachant que certains d'entre eux ont un peu plus d'incorporel que Bassac au bilan. Et donc, ce qui donnerait une capacité d'endettement, entre guillemets, qu'on ne souhaite pas du tout solliciter et qu'on n'imagine pas du tout demain, encore une fois, mettre en œuvre, de 573 millions d'euros, puisqu'encore une fois, la limite habituelle de la profession est à 100%, ou 1 pour 1 de gearing, là aussi à défaut d'un mot français. Et puis par ailleurs, pour ce qui est de l'endettement net sur l'excédent brut d'exploitation, puisqu'il y a un mot français pour l'EBITDA, le standard de la profession est autour de 3 à 3,5. Et là, on voit aussi qu'on a de la marge de manœuvre, mais pas de raison non plus de la solliciter, sauf à avoir des idées extraordinairement intelligentes.
Et je repasse la parole à Moïse pour un mot de conclusion.
Alors, avant la conclusion, j'ai une question importante qui nous a été envoyée par email de la part d'un très grand banquier et qui pose une question cruciale qui nous préoccupe beaucoup du taux de transformation du portefeuille foncier et de la différence entre l'historique de transformation et l'actuel compte tenu de l'impact du Covid et puis de la prudence actuelle des élus. Donc, l'historique de transformation, il était assez bon. Ça peut prendre beaucoup de temps à développer. En revanche, les affaires qui étaient abandonnées, j'ai passé 9 ans au directoire des nouveaux constructeurs, les affaires qui étaient vraiment abandonnées pour des refus politiques ou pour des problèmes de recours étaient relativement rares. Les affaires qui étaient abandonnées pour des problèmes commerciaux étaient, je dirais, encore plus rares. Donc, on était peut-être, je n'ai pas de chiffre exact, on était peut-être autour de 15% du portefeuille foncier qu'on ne parvenait pas à transformer, 15 à 20% peut-être. Je dirais que c'est un maximum, mais ça pouvait prendre en revanche des années de prorogation et de modification des projets pour parvenir à les sortir de terre. L'expérience qu'on a eue en 2020, on est plutôt plus proche de 40 à 50% d'affaires qui ne peuvent pas être développées, essentiellement pour des raisons de bonne volonté des élus locaux. Il n'y a pas plus de recours qu'auparavant et les recours sont toujours traités de la même manière en discutant avec les riverains concernés ou en leur répondant juridiquement quand les demandes ne sont pas justifiées. Donc les recours n'est pas un phénomène qui s'est accentué. En revanche, le phénomène nouveau est très très fort, c'est la prudence ou le malthusianisme des élus. Et qui a fait monter le taux de désistement du portefeuille foncier, peut-être oui, à 40%. Il faut faire une distinction très forte entre le diffus et les consultations ou l'aménager. Notre métier consiste à identifier des terrains à la fois auprès de particuliers ou de personnes privées ou d'entités privées qui nous vendent un terrain au milieu d'un urbanisme déjà établi, et pour lequel on doit solliciter un projet que le maire n'aurait pas imaginé auparavant, ce qu'on appelle le diffus. Et ça, ce sont des projets qui font l'objet d'une très forte prudence, pour ne pas employer d'autres mots, de la part des élus locaux. En revanche, dans le domaine de l'aménagement, pour les consultations, comme vous voyez là, d'ailleurs, cette consultation à Saint-Nazaire, cette perspective qui est à Saint-Nazaire, dans le domaine des consultations, là, les élus ont moins d'incitation à bloquer, d'abord parce que souvent les terrains sont détenus par des entités parapubliques, et ensuite parce que ce sont des quartiers qui sont moins denses et il y a moins de sujets de relation avec les riverains. Et souvent, d'ailleurs, les mairies locales sont actionnaires des aménageurs, donc ont quand même intérêt à ce que les aménageurs soient au moins à l'équilibre. Donc, une augmentation très forte en 2020 pour répondre à cette question, qu'on espère pas pérenne. On avait déjà vu quand même des phénomènes de très grande prudence des élus, notamment dans certains départements français. Quand ça dure trop longtemps, les préfets finissent par reprendre la main et accorder directement les permis aux opérateurs de façon à ce que l'activité ne soit pas totalement bloquée. On a déjà bénéficié de permis direct préfet et c'est peut-être un phénomène qui s'intensifiera si jamais les élus souhaite pas faire appliquer les règlements locaux. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vas-y.
J'ai quelques questions donc, qui m'ont été adressées par mail. La première qui est concerne le chiffre d'affaires et à combien d'actes signés correspond le chiffre d'affaires de l'année, notamment pour les activités constatées à l'avancement résidentiel France, Allemagne et IE en 2020 et 2019. Là, je vous ferai une réponse globale et je vous dirai qu'en 2020, nous avons signé 3929 actes contre 4032 en 2019. Vous voyez que le pansement, la diminution est assez faible. Ensuite, combien...
Alors, attends, va pas trop vite. 3929, tu dis...
3929 en 2020 contre 4032 en 2019.
Signé, sachant que notre prix moyen en France est de l'ordre de 245, ouais. 250. Je parle d'un prix moyen hors taxe et qui inclut les 18% de sociaux environ qu'on fabrique. Et donc, ceux qui ont une calculatrice devant eux. Alors, le prix moyen de la totalité des signatures qu'a cité Arthur, à mon avis, est légèrement plus élevé parce qu'il y a Munich dedans où les prix moyens sont très élevés, même si Madrid et Barcelone sont peut-être un petit peu en dessous ou dans les mêmes ordres de grandeur. Les tailles des logements sont un peu plus importantes en Espagne. Donc, même si les prix au mètre carré peuvent être plus faibles, comme les apparts sont un peu plus grands, le prix moyen peut être comparable. Donc, les signatures de l'année, elles représentent un chiffre d'affaires potentiel qui est encore, à mon avis, il faudrait faire le calcul rapido, mais qui est encore, à mon avis, légèrement plus élevé que le chiffre d'affaires réalisé, ou en tout cas dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc, ce qui illustre bien ce que je disais au début de la présentation, qui est que heureusement qu'on a un gros portefeuille foncier, parce que ça nous permet de stabiliser l'activité, alors même qu'on a beaucoup plus de mal à le transformer.
Et précisément, en Allemagne, le prix unitaire moyen est de 650 000 euros.
Oui.
Donc, largement supérieur aux 250 000 de la France.
Donc, ça reflète juste la localisation de nos affaires, vraiment, soit à Munich, soit dans la périphérie immédiate.
Ensuite, combien y a-t-il de stocks durs au total et par pays? Alors,
52.
Rapidement, par pays, donc en France, 52, exactement. 52 lots en stock dur, à rapporter encore une fois une offre à la vente qui est de 2120 lots à fin 2020. Ensuite, en Espagne, un stock dur de 33 lots. Et à mettre en regard d'une offre à la vente qui est à 253 lots. Et enfin, en Allemagne, on a 4 stocks durs en face d'une offre à la vente qui est de 222 lots.
Sachant que le stock dur, je fais un petit commentaire, et pendant ce temps-là, on peut rappeler aussi les adresses e-mail pour ceux qui ne les ont pas notées au début, ceux qui souhaitent poser des questions, donc amarle@bassac.fr, amarle@bassac.fr, donc mes initiales, @bassac.fr. Le stock dur, c'est pas forcément le diable, c'est pas forcément une catastrophe d'avoir du stock dur, c'est évidemment pas une aspiration et c'est un indicateur à suivre de près puisque un stock dur, c'est-à-dire un appartement non vendu, achevé, peut commencer à se dégrader, on est obligé de payer des charges de copropriété, de payer éventuellement du chauffage pour le maintenir, donc c'est pas idéal évidemment d'avoir du stock dur. Mais c'est aussi l'illustration qu'on a fait en sorte d'optimiser la tarification d'une opération. Par exemple, en Allemagne, vous voyez que les réservations ont plutôt baissé. C'est aussi le reflet qu'on ne se force pas à avoir des écoulements très, très rapides qui seraient en contradiction avec l'atteinte d'un prix convenable pour nos appartements. Et donc, malheureusement, quand vous essayez d'avoir un prix convenable, de temps en temps, c'est comme Ryanair ou Air France ou Singapore Airlines avec leur siège, de temps en temps, vous avez quand même des sièges qui restent vides parce que vous avez optimisé un tout petit peu trop votre politique d'écoulement. Et donc, c'est pas une science exacte, c'est quand même un art. Et donc, mécaniquement, on aura toujours quelques stocks durs qui reflètent le fait que de temps en temps, on n'a pas vendu tous les apparts à la livraison.
Ensuite, on a une question très précise. Il y a quelqu'un qui doit bien lire de nos rapports financiers annuels et qui nous demande où en est la procédure de Port-Cergy et si de nouvelles provisions ont été constatées dans cette procédure qui a duré de très très nombreuses années et terminée. Elle était déjà terminée à fin 2019 car nous avons signé un protocole transactionnel avec la personne à qui nous étions opposés.
Et on peut dire qu'elle a été perdue par le promoteur que nous sommes. Donc Port-Cergy, c'est une affaire des années 90, c'est 700 logements et la plus grande marina privée de France. Et c'est une affaire déjà qui n'avait pas dû être facile parce que les années 90, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ça a été une période difficile pour le secteur immobilier. Et on a été en procédure contentieuse pendant des années avec les anciens copropriétaires pour des raisons d'envasement de la marina. Et malheureusement, on a perdu. Et donc les provisions qu'on avait prises à l'époque, qui étaient très importantes, ont à peu près couvert le coût du protocole. Donc il n'y aura pas de nouvelles provisions.
Ensuite, quelles sont les raisons de l'augmentation des provisions courantes pour environ 8 millions d'euros? Pas grand-chose à commenter, à part que, encore une fois, nous faisons preuve de prudence à la fin de l'année Covid, et que nous avons voulu prendre en compte un certain nombre de risques, notamment de retard sur certains programmes dont le planning est particulièrement tendu.
Ça peut être en immobilier d'entreprise, on peut avoir des pénalités de.
Exactement.
On peut avoir des pénalités de retard de livraison, ça peut être aussi des provisions juridiques. On essaye d'être des bons partenaires et des bons citoyens et donc d'avoir très très peu de contentieux. Et malheureusement, parfois, nos contreparties ne sont pas aussi élégantes. Et donc, on peut avoir des contentieux qui sont provisionnés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est essentiellement ça. Hein. Pénalités de retard et puis provisions juridiques diverses et variées.
Ensuite, les immeubles de placement correspondent-ils uniquement aux actifs acquis par Main Street? Combien en détient-elle? Alors oui, les immeubles de placement correspondent effectivement uniquement aux actifs acquis par Main Street, qui sont donc des commerces essentiellement de pieds d'immeubles avec des activités, des typologies d'activités très variées, des salles de sport, des boulangeries, des commerces. Ces immeubles de placement, ils sont donc représentés par 39 acquisitions au total, 14 000 mètres carrés, et qui ont au total une valeur de 44 millions d'euros, dont 27 millions pour la cote-part de Bassac. Car nous avons sur certains de ces commerces des associés financiers qui font qu'on ne les consolide pas en intégration globale.
En fait, on n'avait pas de compétences commerce historiques, et donc au début, on a fait des tours de table pour apprendre, pour ne pas se jeter à l'eau sans avoir de compétences internes, sans savoir vraiment ce qu'on faisait. Et là, l'idée, c'est de conserver le patrimoine quand on a l'impression qu'on peut valablement louer et avec des taux de rendement sur le capital qui sont encore très condamnables. Voilà. Et pour votre information et pour l'anecdote, on est un peu là, notre petite activité de foncière de commerce a évidemment souffert un peu du Covid. On doit avoir à peu près 25% de paiement de loyer de moins que ce qu'on aurait dû avoir théoriquement. C'est-à-dire qu'on a un taux de collecte qui est de l'ordre de 75% pour l'année 2020. Aujourd'hui, les paiements de loyer ont repris avec la fin des confinements durs du mois de mars-avril. Et donc, on va avoir des sujets avec certains d'entre eux, des négociations. Enfin, ce n'est pas du tout matériel pour la prospérité totale de Bassac.
Nous avons aussi donc une question sur l'effectif du groupe et l'évolution de l'effectif du groupe. Il n'y a pas d'évolution significative sur l'exercice. On est passé de 799 équivalents temps plein à fin 2019 à 785 équivalents temps plein à fin 2020. Pas d'évolution notable.
Une question sur l'évolution des actifs financiers courants aussi, de 22 millions d'euros. Alors là, c'est très bien vu et c'est tout à fait significatif. Enfin, significatif à l'échelle d'un total de 1,4 milliard. Pas totalement, mais au cœur de la crise de mars-avril, quand certaines des valorisations de sociétés cotées se sont beaucoup dégradées, on a identifié une société dans la sphère immobilière qu'on trouvait incroyablement décotée avec un bilan très conservateur. Et donc, on a acheté des actions de cette société qui ont depuis d'ailleurs été revendues. Mais là, comme c'est une photo au 31-12, il y avait encore des actifs financiers courants au moment où la photo a été prise. Mais depuis, comme les valorisations se sont pas mal normalisées, ça a été revendu depuis.
Et donc, ça sera commenté dans les événements post-clôture à la fin de nos annexes au compte consolidé. Et donc, ces actifs ont été revendus à la fin du mois de janvier et au début du mois de février.
Absolument.
Une dernière question sur l'impact d'une plus grande digitalisation des services face au Covid. Alors là, il y a deux choses à dire. La première, c'est que la transition du travail présentiel au travail à distance s'est très bien déroulé dans la société. Je parle particulièrement de l'activité française qui a été la plus touchée. Elle s'est très bien déroulée et les activités des uns et des autres n'ont pas été trop impactées, grâce notamment au travail de notre service informatique. Et deuxième chose, de façon plus structurante, au début du premier confinement, nous avions une digitalisation de nos réservations qui était très embryonnaire, et 5 de nos programmes étaient ouverts à cette dématérialisation des réservations. Le premier confinement a eu cette vertu de nous faire progresser sur ce point, et à la fin du premier semestre, la quasi-intégralité de nos programmes était ouvert à, aux réservations dématérialisées. Voilà. Nos commerciaux ont été formés intensément à partir du premier confinement à la vente à distance. Ces formations, d'ailleurs, il me semble, continuent. Et voilà, donc nous avons largement digitalisé ces aspects de notre activité en France.
Néanmoins, on préfère faire les ventes physiquement, comme on préfère faire les présentations de résultats physiquement. Donc, on espère bientôt avoir le droit de réouvrir nos bureaux de vente dans certains départements qui sont concernés par le troisième confinement, notamment l'Île-de-France. On a pas mal de nos bureaux de vente. Alors, comme Arthur l'a dit, nos commerciaux maintenant sont formés et on a un système interne pour faire les réservations dématérialisées qui honnêtement fonctionne très bien, qui a très bien fonctionné en novembre-décembre pendant le deuxième confinement. Mais néanmoins, on préfère faire les ventes physiquement. Pour répondre à la question de, je crois, Harold, on n'anticipe pas un impact significatif de ce… Les gens s'habituent à tout, comme on dit. Et donc, on n'anticipe pas un impact significatif sur nos rythmes commerciaux en Île-de-France qui est concerné par la fermeture des bureaux de vente de ce troisième confinement. Et puis, c'est vrai que les canaux de distribution aujourd'hui sont encore plus variés qu'ils ne l'étaient même à l'échelle de ma courte carrière en promotion, parce que ça fait 14 ans, puisque maintenant, il y a un tout nouvel acteur en matière d'achat d'appartements qui n'existait pas à l'époque, qui sont les investisseurs institutionnels, qui peuvent être un relais dans certains programmes et dans des conditions financières qui sont comparables à la vente au détail aux utilisateurs finaux.
Il me semble que nous n'avons plus de questions.
Tu peux peut-être ouvrir le micro au cas où les gens souhaitent poser une question.
Je crois que vous pouvez l'ouvrir vous-même pour ceux qui souhaitent poser une question en direct.
Par quel moyen ?
C'est sur vous. Vous pouvez l'ouvrir tout de suite quand vous voulez, en désactivant votre mode de mute.
Évidemment, de toute façon, on reste à votre disposition après cette présentation officielle des résultats. Par ailleurs, on est innovant, sauf erreur de ma part, on l'a enregistré, on la mettra en ligne sur notre site internet pour ceux qui n'étaient pas disponibles ce matin. Et puis évidemment, nos adresses email ne changent pas et nos téléphones non plus. Et donc, on est à la disposition de nos partenaires bancaires, des analystes qui ont la gentillesse de nous suivre, de nos partenaires actionnaires associés, dont certains sont présents, et puis de certains de nos collaborateurs que je vois sur la liste là aussi des participants, et c'est tout mieux. Merci à tous pour votre présence donc ce matin. On avait conclu par un projet d'avenir à Saint-Nazaire, puisqu'on voit une architecture assez contemporaine qui illustre assez bien notre démarche, qui est à la fois de rester bien accroché à nos valeurs cardinales que j'ai illustrées sur la page de culture d'entreprise, tout en s'adaptant à la réalité qui change très fortement autour de nous, que ce soit la digitalisation, pour en revenir à la question de Harold, que ce soit évidemment les impacts sanitaires, des confinements, l'évolution aussi de notre métier en termes de négociation de nos droits à bâtir et de relations qu'on a avec les élus locaux avec lesquels on travaille. Et donc là, notre valeur d'agilité va être testée. C'est une période aussi où la société a été prospère. On a la chance d'avoir une année record alors que l'économie française a été marquée par une pandémie terrible. Et donc, c'est une période aussi où il faut qu'on garde une grande modestie parce que les choses peuvent changer vite. On me répétait beaucoup quand j'étais plus jeune, il n'est pas loin du Capitole à la rage tarpéienne. Le Capitole, c'était l'endroit où on était loué à l'époque romaine, et puis la rage tarpéienne, c'est là où on jetait des condamnés. On espère ne jamais être condamnés, mais néanmoins, on est absolument conscient de ça, et on est conscient des risques qui sont au-dessus de nous, d'excès de confiance, de perdre en discipline, en qualité d'exécution, de perdre en engagement, parce que on est plus prospère et parce que la société fonctionne convenablement. Et donc, ce qu'il faut, c'est rester conscient de ces risques pour ne pas qu'ils nous atteignent, parce qu'on était absolument au fait que les choses peuvent changer, même si on fait tous les jours en sorte que cette prospérité soit pérenne. Voilà, et je vous remercie à tous et nous restons à votre disposition. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.